Nage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir et bienvenue sur Radio Zone 93.8, c'est Ondes Femmes comme tous les mercredis en direct de 17h à 20h et tout de suite 17h-18h30, c'est Remue-ménage. Alors aujourd'hui dans Remue-ménage, eh bien tout d'abord en direct des invités, trois invités, nous avons une grande chance puisque nous avons notre compagnie Sakina Sherat, Fazia Assad et Nicole Dupart qui viennent de nous parler, elles sont là déjà, de l'agenda Najma, c'est comme ça qu'on prononce
Oui, Najma.
L'agenda Najma, qui est l'agenda des femmes du monde arabe. Et puis, en deuxième partie d'émission, eh bien, nous retrouverons Rina Nissim et Françoise Bloch, qui nous parleront d'un séjour qu'elles viennent de faire en ex-Yougoslavie, à Belgrade, en tant que femme en noir et invitée par les femmes en noir de ce pays. Voilà, alors tout de suite, nous nous embarquons pour les femmes du monde arabe, dans le monde arabe, en musique d'abord.
Je suis venu du un qualifié d'arabe, de méditerranéen, d'humain. Je me suis retrouvé. Alors, amour, mon amour, arabicité de moi, de nous, donnez-moi la main que je puisse résister pour ne pas tout casser. C'était un extrait de Ad Dar, la maison, la demeure, de Shadia Sandbar, qui est une Libanaise.
Alors pour nous mettre dans l'atmosphère de cet agenda des femmes du monde arabe, Nicole Dupart nous a lu un premier texte. Elle le fera à plusieurs reprises au cours de cette émission. Merci Nicole de nous prêter ta voix pour ces textes magnifiques et ce premier qui est un poème effectivement. Alors Sakina, c'est toi qui as lancé cette idée de l'agenda de Najma, l'agenda des femmes du monde arabe. Pourquoi avoir choisi, parce que c'est toi qui l'as choisi, pourquoi avoir choisi ce poème pour commencer notre émission, pour présenter en quelque sorte l'agenda ?
Je l'ai choisi parce que j'avais lu les poèmes de Shadia Sandbar en 1982 et c'est quelque chose qui m'a toujours troublée et puis particulièrement ce texte parce que ce poème elle a fait après toutes les défaites et les guerres que le monde arabe a connues. Et elle réaffirme son arabicité. Et moi, j'ai créé l'agenda des femmes du monde arabe pendant la guerre du Golfe, et pour affirmer aussi mon arabicité.
Alors peut-être, Sakina, il faudrait que tu nous racontes en quelques mots justement ta propre histoire et comment à un moment donné tu t'es dit « ça doit dépasser ma propre histoire, ce que je ressens, mais s'adresser à d'autres femmes ».
en fin de compte, c'est les autres femmes qui se sont adressées à moi, ou plutôt c'est je vis dans un pays qui n'est pas le mien, mais qui est mon pays d'accueil quand même. Je vis dans une société qui n'est pas la mienne.
Donc tu es marocaine,
précisons. Je suis marocaine d'origine, comme vous dites. Et je trouve que moi je me suis fondue dans cette société avec une aisance. Je pense, parce que pour moi, si ça peut être Quito ou ça peut être Sri Lanka, je pense que ça serait la même chose. Et malheureusement, j'ai toujours été confrontée avec les gens, avec les médias. On me rejetait toujours en face, arabe, 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 arabe. Et je me disais, mais qu'est-ce qui dérange ? En fait, qu'est-ce qui les dérange ? Intégration, qu'est-ce qui les dérange ? Et puis la guerre du Golfe est arrivée et c'est là où je dis, c'est pas possible. Notamment, il y a eu la guerre du Golfe, donc il y avait la guerre là-bas, mais il y avait aussi une guerre ici. Et pour les médias, pour montrer cette guerre là-bas, ici, ont utilisé surtout l'image de la femme arabe. L'image de la femme arabe, musulmane, voilée et soumise. Et c'est une chose que j'ai trouvée insupportable, parce que c'est pas vrai, d'une part. Et qu'il n'y a pas seulement les femmes arabes, musulmanes et voilées. L'espace du monde arabe est grand. Dans cet espace vivent des cultures, des religions, se côtoient des cultures, des religions différentes. Et les femmes ont toujours été porteuses de paix. Et vivre cette paix au quotidien. Et je voulais montrer, en fait, ou partager ce que je sais aux autres.
Et puis je crois que ce qui est intéressant à dire aussi, quand tu dis Sakina, je voulais partager au quotidien et faire partager aux autres, c'est que c'est aussi ancré dans ta réalité intime, presque familiale, puisqu'il y a aussi ce nom de l'agenda qui est Najma et qui est celui de ta petite nièce.
Oui, alors justement, pendant la guerre du Golfe, ma nièce est née et j'étais à la maternité à 2h du matin, 2h moins 5, et j'ai vu ce petit bout de chou. Sa mère est blonde aux yeux bleus, son père est brun, et elle, entre les deux, une métisse dans la famille, elle habite en France. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui l'attend ? Et je me suis dit, qui va lui apprendre sa culture ? Qui va lui apprendre l'autre moitié d'où elle vient ? Et comme elle est basanée, il faut qu'elle ait des références, qu'elle connaisse son histoire pour pouvoir mieux se défendre si elle subit des agressions quelconques.
Fawzia Assad, vous êtes écrivaine d'origine égyptienne et vous vivez en Suisse depuis longtemps aussi. Alors, comment vous ressentez, vous aussi, cette vie dans plusieurs cultures en même temps ?
Je me sens tout à fait à l'aise parce que, en fin de compte, en tant qu'égyptienne et très très ancienne égyptienne, je me sens à la source de toutes les cultures. C'est presque de la prétention de ma part, mais c'est aussi une manière pour moi, enfin une certitude pour moi, qui me permet de corriger tout ce qu'on peut mettre de négatif dans le mot arabe. Parce qu'arabe, arabe, ça n'a pas de sens. Et on nous a appris, on nous a fait grandir avec le mépris du mot arabe, surtout dans une optique européenne. Alors que finalement, toute la culture européenne vient de toutes les civilisations anciennes qui ont nourri le monde arabe. C'est très simple, le monde arabe est très, très, très riche. Et malheureusement, c'est le monde arabe lui-même qui ignore sa richesse. Alors, je suis tout à fait à l'aise ici. Et là-bas. Je suis à l'aise ici et là-bas. Je fais le lien, si vous voulez. Je montre finalement à l'Occident que le monde arabe est très riche. Je montre aux Égyptiens que le monde occidental n'est pas aussi pourri qu'on veut le dire, parce qu'il y a toute une levée de boucliers contre le monde occidental. Non, je suis tout à fait à l'aise, tout à fait à l'aise. Je connais les langues, je m'amuse, je peux rire en arabe et je peux rire en français. Je peux rire en anglais.
Quelle chance vous avez.
Je ne dis pas parler, parce que c'est facile de parler. Mais de rire, c'est différent. Parce que de rire, ça veut dire qu'on comprend les subtilités d'une langue. Et je suis tout à fait à l'aise.
Je crois que Fawzia Assad parlait des deux rives de la Méditerranée. Et l'agenda, c'est Sakina, c'est une petite passerelle, mais une passerelle quand même entre ces deux rives de la Méditerranée.
Absolument, dans le sens que ma prétention à moi, c'est de pouvoir faire connaître des femmes de là-bas ici et faire connaître des femmes de la communauté arabe en Europe là-bas aussi. Parce que y a les séparations des deux. Eux, ils vivent là-bas, nous, on vit ici, mais il n'y a pas de contact. Le contact réel n'est pas là. Et l'agenda, c'est juste un début de beaucoup de choses qui vont se créer et se faire plus tard.
Mais peut-être que ce n'est pas un hasard, Sakina, que tu aies choisi l'agenda. L'agenda est un objet utilitaire. Donc, tu n'as pas décidé d'écrire un livre, tu as décidé de faire un agenda. Tu peux nous expliquer pourquoi cet objet utilitaire que tu veux faire partager à toutes ces femmes ?
Bah, tout simplement, je me disais, mais comment je peux exprimer ce que je ressens ? Et comment faire passer le message ? En Europe, il y avait... Moi, j'ai toujours utilisé l'agenda femme suisse. Et il m'a beaucoup apporté et j'ai beaucoup appris quand je suis arrivée ici. Et je me disais, bon, d'accord, alors j'ai commencé à réfléchir, je me dis un agenda. Mais oui, mais un agenda, c'est comme tout autre agenda. Et l'idée est venue en fait pour pouvoir accepter le fait que moi je fasse l'agenda, parce que c'était pas évident, c'est l'idée des prénoms. Par exemple, moi je m'appelle Sakina, au travail, on ne s'imaginait pas que mon nom voulait dire quelque chose.
Sereine.
Sereine. Et je me disais, mais... À chaque fois que dans, je disais, mais moi, je m'appelle Sereine, en fait. Alors, bon, on en rigole. Et commencer par ça, en fait. Tendre la main. Alors, si, le fait d'avoir l'agenda entre ses mains, vous ouvrez, vous avez un nom d'une amie, Fatima, Aïcha, Karima. Déjà, vous, en tant qu'Européenne, vous allez découvrir quelque chose, ça va vous rapprocher de l'autre. Et puis... Il y a aussi la provocation, c'est que dans les agendas chrétiens, il y a les Saintes Dominique, Sainte Thérèse, Sainte Marie. Moi, ce n'est pas des saintes, c'est des prénoms. Donc,
l'idée... On s'accroche aux femmes de ce voilà. monde, mais pas celles qui sont dans les nuages.
Donc, je les ai mis dans les nuages. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Et puis aussi, c'est que surtout, c'est que quotidiennement, il y a des informations, des petites informations qui sont là, qui existent, des textes aussi en chaque fin de mois, écrits, bon les premiers c'est moi qui les ai, des textes qui expliquent qui nous sommes, qui elle est cette femme ou cette autre femme, cette autre situation par rapport au monde arabe, et pour s'informer, pour connaître par petites brides, c'est pas un journal, c'est pas une revue, c'est pas un roman. C'est un agenda qu'il faut avoir dans son sac ou sur son bureau, sa table de chevet. J'ai des amis, celui l'année dernière, ils l'ont utilisé comme... comment est-ce qu'on appelle le journal ?
Livre de bord au journal, voilà. Oui.
Livre de bord.
Alors effectivement, nous allons découvrir, nous aussi, pendant cette émission, quelques-uns des nombreux textes qui illustrent au jour le jour la vie de ces femmes du monde arabe. Précisons-le tout de suite, il y a des textes qui ont été écrits pour l'occasion, d'autres qui ont été réunis par Sakina Sherad. Par exemple, Fawzia Assad, vous avez écrit un texte exprès pour cet agenda-là.
Oui, j'ai fait toute une recherche sur la Bosnie pour cet agenda-là. Voilà. Et puis l'année prochaine, j'ai une certaine ambition pour cet agenda et qui montrera finalement la pluralité de cultures qu'il y a dans le monde arabe, c'est de faire coexister le calendrier grégorien avec le calendrier islamique et le calendrier copte, qui est le calendrier de l'ancienne Égypte, qui est encore utilisé aujourd'hui dans l'agriculture en Égypte. Les paysans n'utilisent que le calendrier de l'ancienne Égypte, qui est le calendrier copte. Alors, quand on mettra les trois dates les unes à côté des autres, on montrera un petit peu la pluralité de cultures qu'il y a en Égypte, qu'il y a dans le monde arabe, quoi.
Voilà. Et Nicole Duparc, tu as participé comment, toi, à l'agenda ? Parce que puisque vous êtes toutes là, c'est que vous avez toutes mis une main. Alors Nicole, je crois que tu as été la relectrice générale de tous les textes.
Voilà, l'humble script.
Scribe, parce que nous étions dans le monde arabe.
Pour reprendre les termes égyptiens. En fait, je trouve que c'est une très belle aventure et que pour Sakina, c'était aussi une espèce de renaissance, une manière d'exister, d'affirmer quelque chose. Et une aventure à laquelle j'ai eu envie de participer, tout simplement parce que je crois qu'aujourd'hui, que ce soit ici ou dans le monde arabe, nous sommes chacune un lieu de rencontre entre des cultures, entre des sensibilités différentes qui se croisent en nous d'une manière à chaque fois particulière, et que ce que peut ressentir Fawzia ou Sakina, je peux le ressentir à ma manière, puisque moi j'ai des origines siciliennes par exemple, la Sicile c'est pas très loin du monde arabe non plus, donc il y a un tissage comme ça de culture et d'écho qui sont en nous et dont on a envie d'être un peu porteuse à l'extérieur. Et par le biais de cet agenda, bah, c'était, je trouvais que c'était une belle aventure de le faire comme ça, en équipe aussi, et en échangeant déjà entre nous des informations, des envies ou des désirs de texte.
Et il y a encore une autre femme entre guillemets occidentale, parce que s'il faut citer les métissages, qui a participé au graphisme de l'agenda, peut-être faut-il la présenter aussi, Sakina.
Alors c'est notre jeune graphiste indépendante Yannick van der Schuren qui vraiment a fait un travail extraordinaire de qualité et de patience. Et c'était une très belle aventure avec elle, et il y en aura encore d'autres.
En tout cas, c'est un très bel objet. Quand vous le découvrirez, parce que vous pouvez déjà le découvrir, dans nos librairies favorites, entre autres la librairie du boulevard, l'Inédit, j'espère bien sûr, nos amis de l'Inédit. Sakina fait une grimace, mesdemoiselles, mesdames de l'Inédit, vous devez accueillir l'agenda. Avec une couverture d'un bleu qui, heureusement, nous réchauffe le cœur quand on pense à la grisaille qui nous pèse sur la tête. Et une très belle peinture aquarelle d'une artiste du monde arabe, je suppose, Fozia.
Oui, c'est Kalsoum Gevers qui, elle est tunisienne. Elle a épousé un diplomate hollandais. Elle est tunisienne. Elle fait de une très très belle peinture. Et la peinture qui est sur la couverture est d'elle.
C'est du soleil dans le ciel bleu. En tout cas, vous le verrez si le jour où vous l'aurez dans la main.
Le 16 mai, Shavuot. Cette fête dure 2 jours. Elle est aussi appelée fête des semaines car elle a lieu 7 semaines après Pâques. À l'origine, c'était une fête agraire où l'on offrait les prémices de la moisson du froment. 19 mai, la fête du mouton. Elle commémore le sacrifice d'Abraham. À cette occasion, chaque famille égorge un mouton et partage la viande lors de repas communautaires.
Alors les deux textes que nous vous avons lus vous prouvent que tout au long de l'année, vous pourrez par exemple découvrir la description de fêtes religieuses qui ont lieu dans le monde arabe. Et comme vous l'avez remarqué, nous vous avons parlé d'une fête juive d'abord, puis ensuite d'une fête musulmane. Alors comment est-ce possible de faire cohabiter ? On présente, nous, quand on écoute ce qui se passe dans l'actualité, on a l'impression que le monde musulman et le monde juif sont extrêmement opposés à l'heure actuelle. Est-ce la réalité de ce que l'on vit quand on vit dans un pays arabe ? Fawzia, tout à l'heure, vous disiez que vous connaissiez en plus la religion copte. Comment cohabitent ces différentes religions quand on vit dans le monde arabe ? Et quand on est femme, peut-être spécifions, peut-être après, peut-être cette spécificité.
Elles cohabitent très très bien. Les mariages ne sont pas autorisés entre religions différentes. Mais enfin, il y a l'exception. Je ne dirais pas qu'elle fait la règle, mais l'exception est assez courante. Mais en général, on se marie chacun dans sa communauté, dans son milieu, dans sa société. Mais dans la mesure où, dans l'amitié, dans le travail en commun, il n'y a jamais eu de problème. Nous étions une société très cosmopolite avant la Révolution. Avec la Révolution, les étrangers sont partis, ils n'étaient plus privilégiés, puis là, c'était une vague de grand nationalisme. Maintenant, tout le monde revient, on coexiste à merveille. Il n'y a pas du tout de barrières, il n'y a pas de préjugés, chacun. Il y a ce qu'on appelle en Égypte les religions du livre. Les religions du livre, ça veut dire les juifs, les juifs, les musulmans et les chrétiens. On ne peut pas ne pas appartenir à une de ces trois religions. Si on n'appartient pas à une de ces trois religions, on est un sous-homme. Il faut avoir une religion. C'est tout à fait essentiel. Mais elles sont, que ce soit une religion juive, chrétienne ou musulmane, c'est pareil. N'est-ce pas ? C'est très bien. Alors, en Égypte, puisque Sakine a parlé des prénoms, nous avons pris, à partir du christianisme, ça veut dire à partir des premiers siècles de l'Église, des noms de la Bible. Nous avons oublié tout à fait les noms de l'ancienne Égypte. Que ce soit, et puis après, à l'époque musulmane, on a pris d'autres noms de la Bible. Mais ce sont des noms qui ne sont plus du tout égyptiens. Nous avons les mêmes noms, que ce soit certains noms chrétiens sont des noms juifs, certains noms musulmans sont des noms juifs. Haroun, Aaron, n'est-ce pas ? C'est un nom beaucoup plus musulman que copte. Michaïl, Michel, c'est un nom plus chrétien et juif aussi.
Et Fawzia, le vôtre ?
Fawzia, c'est un nom arabe. C'est un nom arabe parce qu'il a un sens dans la langue arabe, ça veut dire victorieuse. Voilà, Sakina, ça veut dire sereine, mais ces deux noms ne sont pas pris dans la Bible. Mais je vous donne des noms qui sont pris dans la Bible et qui ne sont pas égyptiens. Très peu de gens s'appellent Ramsès ou Osiris ou Russe. Ce sont des exceptions qui donnent ces noms-là. Mais la culture est la même. La culture est biblique. Elle a une source biblique aujourd'hui. Et puis, on se souvient de l'ancienne Égypte. Elle est là, elle est présente. Elle est présente. Et il y a une pluralité de cultures qui est réelle en Égypte. Et il y a un respect du religieux, il y a une législation qui permet aux différentes religions d'avoir leur statut propre, leur législation propre. C'est un monde pluriel dans le domaine religieux. Et il faut absolument mettre en valeur cette spécificité de l'existence égyptienne et la maintenir. Pour ne pas se laisser aller au fondamentalisme un petit peu étroit et qui ignore tout de la culture égyptienne.
Mais malgré tout, Fawzia Assad, il y a quand même eu des oppositions et des heurts entre ces différentes religions. On ne peut pas les passer sous silence malgré tout.
Non, on ne peut pas les passer sous silence. Non, les heurts peuvent passer du préjugé, de la plaisanterie folklorique à la haine. Mais beaucoup plus dans ce. Elle tient beaucoup plus du folklore. Ce sont des groupuscules qui se soulèvent les uns contre les autres. Et ils sont souvent manipulés par les forces étrangères. Les Anglais ont beaucoup manipulé la différence et les petites dissensions qui peuvent y avoir entre les chrétiens et les musulmans. Les Anglais sont responsables de beaucoup de différences, de disputes. Ils ont créé des situations qui montaient une communauté contre l'autre. Ça, c'est certain. Et de plus en plus, l'étranger profite de ces différences, de ces petites différences, pour introduire les dissensions. Mais les chrétiens ne sont pas en Égypte, ne sont pas les Coptes, ne sont pas une minorité comme on l'imagine. C'est une très grosse minorité et qui possède un pouvoir réel, un pouvoir dans les économiques, en médecine, dans toutes les vocations libérales. Les chrétiens ont la main haute, ils sont très bien situés et ils ne devraient absolument pas se sentir une minorité. Au contraire, même dans la mesure où les chrétiens en Égypte sont forts, ils sont détestés. Dans certains lieux, justement, c'est parce qu'ils ont aussi l'oreille de l'Occident, et que l'Occident reste le pays riche, reste le pays désiré, le lieu désiré, le lieu du paradis économique. Dans la mesure où le chrétien d'Égypte s'entend bien avec l'Occident, il est détesté par une mentalité fondamentaliste qui n'a pas de place, qui ne trouve pas une place dans la société.
Sakina, toi qui as vécu au départ au Maroc, est-ce qu'au Maroc il y a aussi une fusion, une bonne entente entre ces différentes religions? Je ne crois pas qu'il y ait la religion copte représentée au Maroc, il y a seulement les juifs et les musulmans, c'est ça?
Mais je n'aime pas qu'on dise la religion copte, parce que copte signifie égyptien. Et de plus en plus, quand j'écris, je suis perplexe quand j'utilise le mot copte, parce que c'est également un non-sens de l'histoire de dire religion copte. Ce n'est pas une religion, copte veut dire égyptien.
Donc on devrait dire chrétien copte, en fait.
Alors on peut dire copte chrétien ou copte orthodoxe ou copte musulman, même si on veut vraiment tenir tête au développement de la langue. Mais il faut surtout éviter de dire religion copte. C'est comme si on disait religion latine, mm-hmm. ou si on disait religion grecque. C'est exactement pareil.
Donc chrétien, vous diriez simplement?
Je dirais, mais de plus en plus j'utilise pour un petit peu pour heurter le mot copte musulman ou le mot copte chrétien. Mais je choque. En disant cela, je choque, mais j'aime choquer pour rendre son sens au mot copte. Et puis, il faut se rendre compte que le musulman en Égypte est copte, ça veut dire qu'il est d'origine égyptienne. Il n'est pas un étranger, il n'est pas venu d'ailleurs, et il s'est converti à l'islam. On ethnicise, on a trop tendance à ethniciser la religion, exactement comme en Bosnie. Mmh. Mais ça, je reviendrai plus tard.
Voilà. Sakina, alors le Maroc?
Alors, les religions donc juives et musulmanes, jusqu'en 67, je n'ai jamais... Bon, je vis à Casablanca. Donc, Casablanca est la ville, c'est Paris du Maroc. J'ai toujours fait mes écoles, mes classes avec des Françaises. Des juives marocaines et puis des musulmanes marocaines, mais on était marocaines avant tout. C'est ça qui est le plus important. Les guerres ont fait, et bon, après avec Israël qui a rappelé tous les juifs du monde, dont les premiers étaient les Maghrébins, qui sont partis parce qu'on leur a fait croire qu'on allait les tuer s'ils partent pas, qu'ils allaient être mangés par les musulmans, ou je ne sais pas, toutes les histoires qu'il y a eu autour. Ça fait si longtemps d'ailleurs. Mais moi, ça n'a jamais été un problème pour moi. J'ai été élevée dans une famille très tolérante, marocaine, musulmane, une famille ouverte. Et ça n'a jamais été un problème pour moi.
Mais le problème des religions est un problème pour toi, dans la mesure où, entre autres, l'islam affirme, pour ceux qui sont surtout fondamentalistes et intégristes, l'image d'une femme voilée, soumise, moins que rien. Et ça, c'est un problème pour toi.
Oui, c'est un problème pour moi, du fait que, pas pour moi puisque j'habite ici, mais pour ceux qui habitent au Maghreb notamment, il y a une montée de l'intégrisme, et les premières qui les premières qui subissent les conséquences de ces intégristes sont les femmes. Quand on me dit qu'en Algérie, les intégristes proposent pour la crise du chômage, etc., le travail, que toutes les femmes institutrices rentrent à la maison et puis qu'on prend des instituteurs. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, moi, ça me choque. Moi, qui sois fondamentaliste, chrétien ou musulman, ça m'est égal. Mais être fondamentaliste ou intégriste de quelconque religion que ce soit, ça, c'est inacceptable. D'autant plus que c'est toujours les femmes qui en subissent les premières conséquences.
Tu t'opposes d'autant plus à l'idée de la femme voilée et soumise que souvent l'on donne de la femme du monde arabe, parce que, précisons-le encore peut-être une fois, on parle bien des femmes du monde arabe, hein, et non pas du monde des femmes musulmanes. Mm-hmm. Eh bien, cette image que l'on donne, toi, tu as une autre image. Toi, tu as dans la tête l'image de ces femmes qui se battent depuis fort longtemps déjà pour leur émancipation et qui ne ressemblent pas du tout à ces femmes voilées et soumises.
Oui, parce que pour moi, quand on parle de la femme arabe actuellement ou du monde arabe, on la présente toujours voilée et soumise, alors que ce sont premièrement les premières féministes, féministes dans le vrai sens du terme qu'on emploie à l'occidental, sont les égyptiennes dans les années 1870, où elles allaient à toutes les conférences aux États-Unis, en France, elles connaissaient les premières féministes françaises. Les premières combattantes dans le monde arabe ont été des femmes. Donc moi, ça me choque, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on pense seulement ça. Et...